Radio Courtoisie,
indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
La décision du gouvernement espagnol du 27 janvier de procéder à une régularisation globale de ces migrants irréguliers marque un nouveau tournant tragique dans la politique migratoire européenne. Selon les informations du gouvernement à Madrid, entre 500 000 et 700 000 migrants, principalement d'origine latino-américaine, qui séjournaient illégalement dans le pays avant le 31 décembre, devraient recevoir un permis de séjour régulier d'ici l'été 2026. Cette mesure est justifiée par des besoins liés au marché du travail, des considérations fiscales et une référence générale aux droits des migrants. Ce qui est qualifié officiellement de régularisation exceptionnelle apparaît cependant, d'un point de vue juridique et politique, comme une démarche aux conséquences considérables pour l'ensemble de l'espace européen. Parmi les organisations ayant réagi à cette décision par des critiques explicites figure le groupe de réflexion polonais Ordo Iuris, un institut à orientation juridique qui s'occupe depuis des années de questions de droit constitutionnel, de politique familiale et d'intégration européenne. Ordo Iuris est notamment connu par ses analyses juridiques qui défendent fréquemment une interprétation plutôt conservatrice du droit primaire européen. Dans une lettre ouverte adressée non seulement au président Macron, mais également à d'autres chefs d'État et de gouvernement européens, l'organisation formule une série d'objections juridiques qui dépassent largement le cas espagnol particulier et devraient impérativement être entendues. Mais le seront-elles ? Le point de départ de l'argumentation est le constat que la mesure envisagée ne concerne pas seulement l'Espagne, mais aura nécessairement des répercussions sur l'ensemble de l'espace Schengen. Comme le souligne Ordo Iuris, les nouveaux titres de séjour délivrés permettraient aux personnes concernées de se déplacer en principe librement au sein de toute l'Union européenne. La lettre indique textuellement, je cite, « Sur la base des titres de séjour délivrés par le gouvernement espagnol, des centaines de milliers de migrants acquérant le droit d'entrer dans n'importe quel État membre de l'Union européenne. » Alors certes, le séjour dans d'autres États membres de l'UE serait formellement limité à 90 jours, mais sans contrôle systématique aux frontières, cette limite est difficile à surveiller efficacement. La conséquence serait dès lors un transfert progressif des risques assumés par l'Espagne vers l'ensemble de l'espace européen. Un premier argument central en faveur de mesures urgentes contre la décision espagnole concerne le facteur dit d'attraction, donc le pull factor, c'est-à-dire l'attrait qu'une telle amnistie pourrait exercer sur d'autres migrants. Ordo Iuris formule cela avec une clarté remarquable à l'adresse du président Macron en disant, je cite, « Une amnistie pour des centaines de milliers de personnes ayant enfreint la loi pour entrer en Espagne peut encourager de nombreux autres étrangers du monde entier à tenter une migration irrégulière. » Fin de citation. Cet avertissement se rattache manifestement aux expériences des années passées durant lesquelles des régularisations répétées dans différents États européens ont souvent été interprétées comme un signal indiquant que l'entrée illégale reste en fin de course sans conséquence, voire même souhaitée par l'État. On pense notamment au funeste gouvernement d'Angela Merkel. Un deuxième point central de la lettre ouverte concerne la question du contrôle de sécurité. Certes, la procédure espagnole prévoit que les migrants doivent présenter un extrait de casier judiciaire de leur pays d'origine, mais Ordo Iuris doute ouvertement de la faisabilité pratique de cette exigence, je cite, « En pratique, il pourrait être difficile d'obtenir de telles attestations, notamment en raison de structures administratives inefficaces ou corrompues, de l'absence de registre criminel ou même de guerre civile en cours. » La conséquence serait que les autorités devraient finalement se fier à de simples déclarations personnelles, une situation qui minerait l'ensemble du concept de sécurité. Il semblerait encore plus difficile, comme indiqué au troisième point de la lettre ouverte à Macron, de parvenir à une évaluation solide quant à savoir dans quelle mesure certains migrants pourraient représenter un risque futur pour l'ordre public malgré l'absence d'antécédents judiciaires. Car le fait qu'une personne issue d'un contexte culturel totalement différent, comme par exemple l'Afghanistan, n'ait commis jusqu'à présent aucun crime avéré, ne dit rien de son état psychologique ou de son système de valeurs. Compte tenu des centaines de milliers de demandeurs, une vérification sérieuse dans chaque cas individuel serait tout simplement irréaliste. Outre ces aspects liés à la sécurité, la lettre évoque également, comme quatrième point, les conséquences sociétales à long terme d'une immigration massive d'une telle ampleur. Il ne s'agit explicitement pas seulement de l'argument plutôt populiste de la criminalité, mais des aspects nettement plus subtils et problématiques liés à la capacité d'intégration culturelle et à la stabilité sociale. Un passage central de la lettre ouverte au président Macron indique ainsi, je cite, « le fait que la majorité des migrants concernés ne soient actuellement pas impliqués dans des activités criminelles ne garantit en aucun cas qu'ils ne deviendront pas une charge pour les systèmes sociaux et il n'élimine pas non plus le risque que se forment des enclaves aliénées de minorités nationales rejetant les mœurs et valeurs européennes. » Cette appréciation renvoie à une expérience qui devient de plus en plus visible dans de nombreux États européens, la formation de sociétés parallèles et de milieux culturellement fermés qui ne s'orientent que de manière limitée vers les normes et valeurs de leur société d'accueil, dominent de plus en plus l'espace public et contraignent désormais davantage la société majoritaire européenne existante à s'adapter elle-même aux migrants. Une accusation particulièrement grave vise enfin la base juridique même de la décision espagnole. Ordoyo soutient qu'une telle mesure serait en nette tension avec des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, notamment le principe de coopération loyale, ainsi que les objectifs d'un espace de liberté, de sécurité et de justice. En conséquence, la lettre souligne, je cite, ni la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni aucun autre traité international ne garantit un droit à l'immigration. Fin de citation. Cette critique vise indirectement une pratique politique dans laquelle les décisions en matière migratoire sont de plus en plus légitimées par des arguments moraux ou humanitaires sans que les limites juridiques de cette argumentation soient suffisamment prises en considération. Cependant, Ordo Iuris ne se limite pas à critiquer l'Espagne, mais formule également des recommandations concrètes à l'intention des pays voisins de l'Espagne, auxquels la lettre ouverte est adressée, notamment la France, afin de leur rappeler leurs obligations envers leurs propres citoyens. Citation, « Nous appelons vos excellences à défendre la sécurité de vos nations contre une immigration massive incontrôlée. » Fin de citation. Il est ainsi proposé que d'autres États membres, avant tout la France, puissent en cas de menace pour l'ordre public résultant de la décision espagnole, réintroduire temporairement des contrôles aux frontières en toute légalité, et qu'ils devraient même le faire en réalité. Il est également souligné que certains États pourraient, en vertu de l'article 259 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, engager une procédure légale contre l'Espagne s'ils interprètent la légalisation, décidée d'ailleurs sans aucune concertation, de centaines de milliers de migrants illégaux comme une violation des traités et de la solidarité européenne, ce qu'ils devraient également faire compte tenu des menaces décrites ci-dessus. Devraient, pourraient. C'est là que nous arrivons au véritable cœur du problème et de la lettre. Certes, toutes ces analyses et propositions sont cohérentes d'un point de vue juridique et pleinement justifiées dans le cadre du droit européen et national existant. Politiquement, cependant, leur mise en œuvre paraît peu probable. Il est en effet très peu probable que le président Macron, le chancelier Merz ou d'autres chefs de gouvernement européens, à l'exception possible d'Orban ou de Fico, réagissent à cette lettre par des mesures concrètes à l'égard de l'Espagne ou même qu'ils lui accordent une réponse. La dynamique politique actuelle est devenue trop forte, orientant les décisions en matière migratoire moins vers des normes juridiques que vers des impératifs moraux. Trop forte aussi sans doute la pression de conformité intra-européenne visant à ne pas s'aligner la puissante bureaucratie bruxelloise, d'autant plus que, grâce à la guerre contre l'Iran menée par Trump et Israël, la prochaine crise économique européenne et donc la nécessité de nouveaux plans d'aide financière se profilent déjà à l'horizon. Se dessine ainsi un schéma qui a été observé à maintes reprises dans la politique européenne ces dernières années. Des mesures manifestement en tension avec les normes juridiques existantes sont tout simplement légitimées par un appel assez général et des objectifs moraux supérieurs. La référence aux droits de l'homme servant de couche argumentative en téflon sur laquelle glissent à peu près toutes les objections juridiques. De cette manière, naît une situation paradoxale dans laquelle le droit continue certes d'exister formellement, souvent même avec la plus grande rigueur, notamment lorsqu'il s'agit de la lutte contre la droite, mais où son application pratique devient de plus en plus sélective, surtout évidemment, dans la question de l'immigration et de l'intégration. Ainsi, la lettre ouverte de Ordo Iuris restera sans doute un témoignage important montrant que tous les juristes n'ont pas été emportés par le courant de moralisation. Politiquement, cependant, elle restera largement sans effet. Il est hautement probable que les mesures espagnoles soient mises en œuvre intégralement sans que des conséquences juridiques sérieuses en découlent pour l'Espagne. Celui qui, comme la Pologne ou la Hongrie, défend ses frontières contre l'immigration illégale et protège ainsi aussi ses voisins, est considéré comme un ennemi des valeurs européennes, mais celui qui, en légalisant des centaines de milliers d'immigrants illégaux, impose un fardeau immense à l'ensemble de l'Union européenne, de sa propre initiative, est un héros des droits de l'homme.
Ligne droite, l'analyse.
Merci David Gengel. C'est pour cette analyse, eh bien, nous retrouvons Régis Le Sommier, comme tous les lundis. Bonjour Régis.
Bonjour Alexandre.
Alors, c'est la Troisième Guerre mondiale.
Non, c'est pas la Troisième Guerre mondiale, mais ce que je vais vous raconter peut-être interroge sur justement cette perspective. Est-ce qu'on n'est pas rentré dans justement un conflit mondial avec la Russie et la Chine, apparemment beaucoup plus impliqués qu'il n'y paraît en Iran. Alors, la riposte iranienne déjà à l'attaque conjointe américaine et israélienne du 28 février n'a cessé de surprendre les observateurs, quelle que soit leur sensibilité ou leur nationalité. Aucun de ces derniers n'attendait l'Iran à ce niveau de capacité militaire ni d'audace stratégique. Alors qu'on vient de passer le premier mois de guerre, l'Iran défie toujours l'Amérique. Trump a beau répéter que son adversaire est anéanti, que les Iraniens le supplient de trouver une issue, chaque jour passé démontre le contraire, et même davantage. Car l'Iran ne ressemble à aucun des adversaires que les États-Unis et Israël ont eu à combattre jusqu'à présent. Que ce furent les talibans, Al-Qaïda ou Daesh pour Washington, le Hamas ou le Hezbollah pour Tel Aviv, les guerres asymétriques procédaient chaque fois de tactiques d'usure du fort par le faible. Pourtant, au cours de ces années de guerre en Irak, en Afghanistan ou d'offensives au Liban Sud ou en Palestine, le fort agissait doté d'une puissance technologique infiniment supérieure. Le faible, dès lors, devait se contenter d'actions de guérilla classiques, embuscades, mines sous les routes, jouissant du vieux principe maoïste du combattant agissant au sein d'une population comme un poisson dans l'eau. Ce que l'Occident a mis un certain temps déjà à comprendre, c'est qu'à force de mourir sous des déluges de feu ou aux mains d'opérateurs des forces spéciales dotées des équipements dernier cri, le faible avait fini par des moyens détournés à s'en procurer lui aussi. J'en veux pour preuve le Taliban 2.0 qui aujourd'hui contrôle l'Afghanistan et dont les éléments d'élite ressemblent à s'y méprendre aux Navy SEALs et aux Delta Force américains. Pourtant, même si l'ennemi s'est adapté, il lui aura toujours manqué une aviation, des satellites, ouais, des moyens de détection cyber. Et ce qu'on voit là, c'est que ce n'est pas le cas avec l'Iran. Alors, avant d'expliquer pourquoi l'Iran est différent et ce que cela veut dire sur la suite de la guerre, attardons-nous un instant sur la signification de cette guerre. En particulier sur le fait que l'Iran est peut-être la première guerre des BRICS. En déclarant la guerre à l'Iran, Donald Trump est-il en train d'offrir à l'entité géopolitique qui conteste le plus l'hégémonie américaine une raison d'être? Laissons un instant le champ de bataille de côté, intéressons-nous aux conséquences économiques et financières du conflit. Si celui-ci avait conduit au bout de quelques jours à l'effondrement du régime iranien, Trump et à sa suite Netanyahou auraient conforté la place des USA comme gendarme numéro un des affaires du monde, Israël faisant figure de tête de pont de l'Occident face à un monde arabo-musulman éternellement instable. La guerre étant rentrée dans sa quatrième semaine, le blocus du détroit d'Hormuz est venu refroidir les marchés, provoquant des crises en cascade sans qu'on puisse encore en imaginer la fin. Parmi elles, le simple fait que les gardiens de la Révolution imposent une taxe de 2 millions de dollars au passage des tankers dans le détroit, payable en yuan, est en soi un affront inédit à la Pax Americana dans le monde. Toucher au dollar, c'est s'attaquer à la base de la puissance américaine. Trump en est parfaitement conscient. Détruire les pétromonarchies ou simplement menacer leur devenir comme l'a fait l'Iran va dans le même sens. Washington n'est-il pas censé les protéger ? Doha, Abu Dhabi, Dubaï, Manama, Mascate ne payent-ils pas assez pour cela ? Donald Trump, agissant souvent en shérif, ce qui cadre très bien avec la culture de ses électeurs, un peu moins avec celle du reste du monde, il n'est pas inconsidéré d'emprunter à l'histoire du Far West la métaphore de la cavalerie. Celle-ci veut que lorsque l'Indien se révolte, tue et pille le pionnier et sa famille, la cavalerie arrive en général à la fin pour mettre l'Indien en fuite et rétablir l'ordre et la morale. Mais avec l'Iran, la cavalerie, disons les Marines et la 82e division aéroportée dont on annonce en fanfare les déploiements pour un coup final qui ne saurait tarder, il existe des doutes quant à l'efficacité de l'usage de la force massive et des soldats au sol. Et c'est là que l'asymétrie de ce conflit joue en faveur de l'Iran. Le temps, en effet, est devenu une variable avantageuse pour le plus faible. Plus le conflit durera, plus le chaos sera grand. Poutine et Xi Jinping regardent l'affaire se dérouler en vieux briscards du temps long. Ils savent que Trump est un impatient et que face à un adversaire comme l'Iran, il faut savoir réfléchir avant d'agir. Peut-être est-ce même déjà trop tard. En tout cas, pour ces deux puissances comme pour les autres acteurs du monde des BRICS, la guerre de l'Iran risque d'affaiblir durablement la position américaine. En premier lieu, auprès des puissances du Golfe, comment pourrait-elle aujourd'hui, par exemple, investir 3000 milliards de dollars dans l'économie américaine, comme elle l'avait promis à Donald Trump, quand Washington, avec ses bases sur leur sol, aura laissé l'Iran les ravager. Le caractère protecteur des alliances avec l'Amérique en aura pris un sacré coup. Cessez-le-feu ou pas, guerre ou paix, la place de l'Amérique ne sera plus jamais la même. L'Europe, humiliée régulièrement par Trump, aura peut-être enfin compris qu'elle doit cesser de considérer absolument l'oncle Sam comme son grand frère et vivre sa vie d'adulte en cherchant ses intérêts et ceux des pays qui la composent. Le mot de la fin sur ce sujet revient sans doute au vieux crocodile de la diplomatie américaine, Henry Kissinger, qui disait autrefois « Être un ennemi des États-Unis est dangereux, mais être son ami est fatal ». Mais le plus inquiétant dans ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient tient au fait que les frappes et les missiles iraniens semblent de plus en plus soutenus, voire conçus à la base peut-être avec la technologie chinoise et le renseignement russe, dans des proportions que l'Occident n'avait sans doute pas imaginées. J'en veux pour preuve ce week-end. Un avion AWACS a été détruit sur une base en Arabie Saoudite. Vous savez combien ça coûte, Alexandre, un avion AWACS ?
J'ignore ce qu'est un avion AWACS, Régis.
Alors, un avion AWACS, c'est un avion, si vous voulez, c'est une sorte de tour de contrôle du ciel. Quand vous avez les chasseurs qui évoluent dans un espace aérien, l'AWACS, c'est lui, c'est la tour de contrôle, c'est lui qui va dire à tel ou tel chasseur de descendre et de larguer sa bombe à tel endroit, etc., qui va observer. Donc, c'est un avion bourré de technologies de surveillance. Ça vaut 700 millions de dollars. Ah. Voilà. Bon. Les Iraniens ont riposté aussi sur des usines chimiques israéliennes. La semaine dernière, ils avaient riposté sur la ville de Dimona, là où se trouve la centrale de recherche nucléaire israélienne. Je crois bien d'ailleurs qu'ils ont réitéré ce week-end. Alors, première aberration à relever dans ce conflit, dans notre analyse, l'avantage tactique que donne aux Israéliens, aux Iraniens le drone Shahid, en ce qu'il ne coûte pratiquement rien, mais nécessite des systèmes d'interception très onéreux. Ce drone, rappelons-le, est arrivé sur le champ de bataille ukrainien en novembre 2022. Comment n'avoir pas imaginé que l'Iran l'utiliserait à son tour en 2026 s'il était attaqué et qu'il ne se produirait ce qui se produit finalement en ce moment ? Comment ne pas non plus avoir vu que l'Iran s'attaquerait aux bases américaines dans la région et par extension aux économies des pays qui les accueillent ? Trump a avoué avoir été surpris. Or, l'Iran n'a jamais cessé de le dire. Comment ensuite s'est imaginé que la Chine resterait les bras croisés, elle qui aspire 80% du pétrole iranien ? Quant à la Russie, pourquoi s'offusquer qu'elle fournisse à Téhéran le renseignement nécessaire quand les États-Unis eux-mêmes fournissent la même chose aux Ukrainiens depuis 4 ans ? J'en termine en vous livrant une réflexion assez inquiétante, je trouve. D'un conflit démarré par Trump sous la pression de Netanyahou pour mettre un terme aux ambitions nucléaires iraniennes, on débouche sur une guerre dans 11 pays qui pèsent sur l'économie mondiale, provoquent potentiellement la clôture de deux voies maritimes d'importance que sont Hormuz et Bab al-Mandab en mer Rouge, Mais l'ingérence manifeste des Chinois et des Russes, s'il s'avère qu'elle est plus poussée que prévu, donne à la scène des allures de Troisième Guerre mondiale. Alors certes, Trump et Poutine n'en sont pas venus aux mains. L'argument du partage de renseignements semble accepté des deux côtés comme étant de bonne guerre. En plus, Poutine bénéficie largement des conséquences du conflit iranien sur les cours du pétrole et la Chine peut tester ses nouveaux jouets directement, pas comme en Ukraine où Pékin ne fournissait que des pièces détachées. Tout cela ne laisse pourtant personne à l'abri d'un couac, d'un grain de sable dans la machine, d'une mauvaise interprétation ou d'une poussée d'émotion chez Trump ou Pete Hegseth, son ministre de la guerre, pour se retrouver comme en 1962 au bord d'un conflit nucléaire. Il ne nous reste qu'à prier pour qu'on n'en arrive pas là. Mais même là, même ça, ça devient compliqué. Les Israéliens ayant interdit ce week-end au patriarche de Jérusalem, pour la première fois depuis des siècles, de célébrer la messe des rameaux dans l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Donc ce n'était, comme je l'ai dit, pas arrivé depuis des siècles.
Merci Régis Le Sommier pour cet édito. Tout d'abord, la première chose qui me vient en tête, c'est, je ne sais pas si vous avez eu vent de cela, mais apparemment à Washington, l'opération donc nommée par Trump Epic Fury, c'est désormais surnommée Epic Failure, donc échec épique quelque part.
Je dresse quatre constats. Avant l'opération, le détroit d'Ormuz était ouvert.
Oui.
Avant l'opération, le pétrole iranien était sous sanction. Il ne l'est plus. Avant l'opération, les bases américaines tout autour de l'Iran étaient plutôt des avantages. Aujourd'hui, elles sont des inconvénients. Avant l'opération, l'Iran s'apprêtait à abandonner la perspective du développement d'un nucléaire militaire. Si les choses restent en l'état, l'Iran va tout faire pour obtenir la bombe atomique. Voilà, quatre arguments qui montrent que on n'est pas, n'est plus dans la fury, mais plus proche de la failure, en effet, et de façon éclatante.
Alors, ce que vous décrivez finalement, c'est une forme de comment dire, on a l'impression de se retrouver face à un nouveau Vietnam en réalité. C'est-à-dire qu'on a un pays qui finalement, on a les États-Unis qui d'un côté s'engagent sur un nouveau terrain de conflit, de l'autre un pays qui est largement plus faible tout de même militairement, mais qui, vous l'avez rappelé, est soutenu par d'autres puissances plus importantes et qui cherchent la rivalité avec les États-Unis, la Russie et la Chine. Finalement, est-ce qu'on entre dans une nouvelle guerre froide à ce niveau-là ?
Moi, je crois que la métaphore du Vietnam, si elle n'était pas forcément la plus adaptée au début du conflit, avec le déplacement des moyens, parce que ce qui c'est là où le Vietnam a commencé à prendre une allure, on va dire, différente, c'est quand les Marines ont débarqué à Nha Trang en 1968. Un corps expéditionnaire à peu près de même calibre que celui qui a été projeté avec la 82e division aéroportée au Moyen-Orient. Maintenant, le débarquement n'a pas encore eu lieu. La phase déploiement de troupes au sol n'est pas encore confirmée. Donald Trump ne sait pas encore probablement s'il va le faire ou pas. Maintenant, s'il le fait, effectivement, ça risque de ressembler au Vietnam. Les deux puissances Russie et Chine sont derrière les Iraniens, comme elles étaient derrière le Viet Minh entre 65 et 75. Alors, ce qui est aussi intéressant dans cette approche, c'est, je pense, une chose qui est assez peu souvent mise en avant pour expliquer ce conflit, pour expliquer surtout les difficultés qu'ont à la fois les Israéliens et les Américains avec l'Iran aujourd'hui, qui est finalement un problème de culture et un problème de connaissance de l'adversaire. On a aux États-Unis une quantité de professeurs qui étudient l'Iran sous tous les sens depuis longtemps, mais il semblerait qu'au moment de prendre une décision d'aller en guerre, on oublie complètement, et au lieu de se dire comment pénétrer dans cet édifice complexe qu'est l'Iran, on s'en remette à chaque fois à l'utilisation écrasante de la force. Et l'utilisation écrasante de la force, eh bien, C'est arrivé dans toutes les guerres. Je prends l'exemple de l'Allemagne nazie. Les bombardements américains et britanniques sur l'Allemagne n'ont jamais provoqué de séisme dans le régime national-socialiste. Au contraire, unifiant la population face à un malheur collectif et lui rappelant largement ses origines et la volonté d'anéantissement de la part de l'adversaire. Si vous voyez des civils qui meurent, vous avez beau être dans l'opposition iranienne, vous finissez par considérer que il y a agression contre votre pays. Jamais on a vu des gens se féliciter et arriver au devant de leur libérateur parce qu'il leur avait envoyé des bombes sur la tête. C'était même d'ailleurs un argument largement utilisé par la propagande de Vichy au moment de la bataille de Normandie, la destruction des villes normandes causant des dizaines de milliers de morts a été utilisée par Vichy pour dire regardez ce que font vos libérateurs. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte. L'autre élément, il est typique des États-Unis malheureusement, parce que je ne dis pas qu'en France on ait plus d'expérience, mais on a eu des généraux qui, dans l'histoire, notamment au niveau de l'Algérie et au niveau de l'Indochine, ont commencé à penser la guerre différemment, et à imaginer et à essayer de comprendre l'adversaire, voire à vivre comme l'adversaire, pour essayer de déceler chez lui quelles étaient les potentialités de faille pour le comprendre mieux, donc mieux le combattre. Avec les Américains, on n'est pas du tout dans cet état d'esprit. Alors qu'avec les Iraniens, on se trouve face, quand vous voyez le trolling que font en ligne aujourd'hui avec les petits clips vidéo sur nos sociétés, mais ils ont la culture, ils nous connaissent par cœur, intimement, et c'est pas un hasard si vous avez des personnages comme Ali Larijani qui a été tué par Israël récemment. Ali Larijani était, je l'ai déjà dit ici, agrégé de philosophie, avait écrit 3 bouquins sur Kant. Mais quand on écrit 3 bouquins sur Kant, c'est pas tellement le problème d'être un intellectuel et de rajouter ça sur son CV. Ça veut dire qu'on connaît la civilisation européenne et par extension la civilisation occidentale par cœur. Or, nous ne connaissons rien de ces Iraniens. Et mieux, vous avez des secrétaires à la guerre comme Pete Hegseth qui dit « on négocie avec des bombes ». Donc quand vous en êtes à dire « on négocie avec des bombes », c'est sûr que si le carpet bombing ne marche pas, vous n'avez pas trouvé d'autre solution.
Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que d'une certaine façon, un pays qui a très bien réussi finalement à comprendre ces guerres asymétriques, c'est la France, notamment dans ses déploiements en Afrique, où on voyait justement que la France, mais sans doute par sa culture intellectuelle et militaire, parvenait parfaitement à comprendre comment est-ce qu'on combattait l'État islamique, alors Boko Haram, etc. Mais d'une certaine façon, même si l'opération n'a pas été couronnée d'un succès absolu, il n'y a aucun fiasco qu'on peut imputer à Serval, aucun fiasco qu'on peut imputer à Barkhane, en l'occurrence. Et on a l'impression que les États-Unis font une nouvelle fois les frais de leur manière de penser qui semble être l'argent ou les bombes.
Oui, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que les États-Unis, quand ils... Winston Churchill disait des Américains, ils finissent par bien faire les choses après avoir essayé tout le reste. Winston Churchill, qui a quand même été leur allié indéfectible. Et je trouve que ce jugement est parfaitement exact. Quand on analyse la guerre en Irak, que moi j'ai eu l'occasion de couvrir pendant très longtemps, sur plusieurs années, on se rend compte que les États-Unis ont insisté sur ce côté usage de la force, définition du droit, application d'un modèle occidental et on va dire souhait d'imposer la démocratie pendant, on va dire, les 4 premières années, peut-être 3 premières années de la guerre. En 2006, ils ont rappelé un général qui s'appelait David Petraeus, qui est toujours qu'on entend toujours s'exprimer dans les médias américains. Et David Petraeus, que j'ai eu l'occasion de rencontrer en Irak et en Afghanistan, c'était le type qui avait lu les penseurs français de la contre-insurrection, le général Trinquier, qui se réclamait, Petraeus m'a dit, mon mentor, c'est le général Bijard. Général Bijard, voilà, les guerres de décolonisation. Et en particulier, un auteur français très impliqué pendant la guerre d'Algérie, qui s'appelait David Galula, qui a écrit un manuel sur la contre-insurrection, que Petraeus a redynamiser en fait. C'était une thèse que Galula avait fait à Princeton aux États-Unis après s'être fait virer de l'armée française, et Petraeus a dit ce qu'écrit ce type, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Donc il a pris une sorte de calque avec la guerre d'Algérie. Petraeus était aussi très impressionné par l'action de Bijard et des généraux français d'un point de vue militaire, même si la guerre d'Algérie a été perdue politiquement, militairement, la bataille d'Alger a été gagnée par la France, ouais. Et Petraeus a essayé d'en faire un calque avec ce qui se passait à Bagdad, parvenant à retourner la situation.
Et c'est donc finalement ce qui s'est passé en Irak, hein, parce que dans le fond, la victoire militaire a été acquise en Irak, la victoire politique... a été plutôt, il y a eu plutôt une défaite politique dans le fond, mais c'est vrai que sur le point strictement militaire, les opérations irakiennes sont une réussite.
Alors, du point de vue du retournement de la communauté arabe sunnite, dans laquelle a éclos et en gros se planquer Al-Qaïda en Irak, et du point de vue de la diminution de l'activité de ce groupe. L'approche Petraeus, a donné des résultats. Maintenant, le problème qui s'est passé en Irak ensuite, ça a été la prise de pouvoir des chiites, et en particulier d'éléments sectaires et extrêmes comme Nouri al-Maliki, qui a été premier ministre d'Irak, qui ont finalement ostracisé une nouvelle fois la communauté arabe sunnite. Et cette fois-là, c'est pas Al-Qaïda qu'on a eu, c'est Daesh. Faut voir aussi les conséquences. Ce qui est très intéressant, c'est que dans l'approche américaine de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, si vous embarquez encore les États-Unis pour 10 ans d'une guerre d'occupation en Iran, il faut imaginer ce que ça peut produire. Oui. Il faut imaginer comment votre adversaire va se transformer. Qui aurait pu imaginer en 2003, où à l'époque on y allait la fleur au fusil, à l'exception de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin, mais dans la classe médiatique, il y avait aussi en France énormément de gens comme Bernard Kouchner et autres qui étaient favorables à cette guerre en Irak. Qui aurait imaginé à l'époque qu'on aurait eu Daesh? Voilà.
Et alors, il y a un très bon article que je vous recommande, Régis, mais que je recommande à tous les auditeurs, hein, d'Adrien Jolme.
Excellent, Adrien Jolme.
Exactement, correspondant donc du Figaro à Washington. Et très très bon article dans lequel il explique notamment que un des facteurs d'échec de Donald Trump actuellement, c'est le fait d'avoir viré tous les experts, tous les grands généraux, de s'être entouré uniquement d'une sorte de cour qui tourne autour de lui. Et finalement, il réalise un petit peu la même erreur que Vladimir Poutine en Ukraine, qui lui aussi s'était entouré finalement de personnes qui étaient assez d'accord avec lui et qui refusaient, d'ailleurs c'était un des problèmes au bout de quelques mois de guerre, mais de lui dire que finalement en fait tout n'allait pas être gagné aussi rapidement que possible. En fait finalement, il y a une forme de courtisanisme dans le trumpisme qui nuit complètement à tous ses objectifs.
Écoutez, Alexandre, vous passez des États-Unis à la Russie, vous oubliez de vous arrêter en France. Qu'a fait Emmanuel Macron avec le corps des diplomates?
C'est vrai. Avec le corps militaire, on se souvient du général Pierre de Villiers.
Tout à fait, donc quand il y a une vision un peu alternative ou un peu critique, qu'est-ce qu'on fait? On préfère la faire passer sous les roues du bus, faire passer son auteur sous les roues du bus, plutôt que d'affronter ou d'essayer de composer avec plusieurs sensibilités. C'est un petit peu ça le problème de ces leaders. Vous avez tout à fait raison sur Poutine, vous avez tout à fait raison sur Trump, qui a complètement laissé tomber le département d'État. D'ailleurs, une blague traînée au département d'État il y a quelques mois, qui disait... devant la frénésie de diplomatie de Jared Kushner et de Steve Witkoff, donc de l'entourage familial de Trump, en fait, on disait au département d'État quel est le secteur le plus actif du département d'État, et les gens répondaient c'est la cantine, parce que plus personne n'a rien à faire, tout le monde est de facto au chômage devant cette diplomatie des gendres et des copains de golf, parce que c'est ça.
Oui. Et alors, justement, parlant de diplomatie, Donald Trump, la semaine dernière, on en a discuté un petit peu par message pendant la semaine, mais a déclaré qu'il avait repris les négociations avec l'Iran sans prévenir Israël par ailleurs, et que les Iraniens avaient dit « on refuse de discuter avec Kouchner et Witkoff, on discutera qu'avec Vance ».
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que quand les Iraniens ont proposé ça, la Maison Blanche n'a pas refusé catégoriquement, et l'option Vance est arrivée comme s'imposant comme possible alternative ou retour de la négociation. Ce qui est très intéressant, c'est aussi l'arrivée en parallèle d'autres acteurs que le négociateur habituel qui était le Sultanat d'Oman. Tout à coup, vous avez l'Égypte, la Turquie et surtout, on ne l'attendait pas, le Pakistan, sans doute égard au fait qu'il possède l'arme atomique, et que ce soit un interlocuteur assez important et qu'il ait aussi réintroduit des relations avec l'Arabie Saoudite récemment, qu'il soit un allié de la Chine, très important, et qu'il ait des relations aussi avec les États-Unis, le Pakistan est devenu une sorte de possibilité pour de théâtre de nouvelles négociations. Et J.D. Vance est devenu potentiellement un nouveau négociateur si ça doit déboucher sur une véritable négociation. Alors, il y a eu un peu une douche froide pendant le week-end puisque les Iraniens ont expliqué que ça ne les intéressait pas à ce stade de négocier. Ce qui est intéressant,
ce qui est fascinant, d'ailleurs,
parce que,
c'est ça.
Dire qu'un ennemi est à terre, qu'il est détruit...
Face à la première puissance mondiale, dire non, on n'a pas envie de négocier pour le moment.
Non, mais ce qui veut dire que si l'Iran désigne son négociateur en disant oui, on serait d'accord avec Vance, mais on veut pas de Witkoff et de Kouchner, et si l'Iran définit le pays où vont se tenir les négociations, ça veut dire pour moi que les États-Unis ont beaucoup plus besoin de ces négociations que l'Iran, qui est dans un processus actuellement duquel il ne veut pas s'écarter parce qu'il veut aller jusqu'au bout de sa démonstration et montrer que sa stratégie potentiellement peut-être victorieuse, et de laisser l'Amérique justement s'embourber
dans un... Oui, parce que non pas que cette guerre soit à leur avantage du tout, mais d'un autre côté, tant qu'ils sont en conflit, ils veulent que la paix leur soit favorable. Enfin, c'est la fameuse phrase, mieux vaut une bonne guerre qu'une mauvaise paix.
Tout à fait, et pour l'Iran, comme il s'agit d'une question de survie, si l'Iran survit, il a gagné.
Oui.
Donc voilà, donc on est dans un état d'esprit aussi. C'est pour ça que j'ai appelé ce conflit, et je l'ai comparé, j'ai dit c'est peut-être la première guerre des BRICS. Autant l'Ukraine a été la tectonique des plaques, on va dire, souvenez-vous du peu de condamnation de l'intervention russe en Ukraine, de la part de l'Afrique, de la part de l'Asie, de la part de plein d'acteurs dans le monde, alors que on imaginait à l'époque asphyxier la Russie et la mettre à genoux, comme avait dit Bruno Le Maire, ça ne s'est pas du tout produit, mais là, on a un des acteurs des BRICS qui mène une guerre contre l'Amérique et contre cette vision mondiale de l'Amérique. Et donc, avec Israël comme tête de pont occidentale au Moyen-Orient. Donc, quelque part, oui, on est peut-être dans, on va dire, la concrétisation. C'est pour ça que ces deux guerres sont liées, Ukraine et Iran. Mais on est peut-être dans la concrétisation, justement, d'un changement du monde avec un avènement militaire des BRICS, l'Iran étant lié à la Chine et étant lié à la Russie désormais.
Une minute pour conclure, Régis Sommier. C'est possible un engagement au sol américain? Est-ce que, selon vous, c'est probable même?
Je n'ai pas de ce que je remarque, c'est
vous n'avez pas de boule de cristal
non,
chez vous,
mais,
c'est pas...
mais quand il y a une montée en puissance comme ça, en général, ça débouche par une intervention. Quand je dis montée en puissance, je dis apparition des mêmes éléments de langage habituels. L'intervention, vous verrez, vous écouterez un petit peu, mais vous verrez que je me trompe pas. Si ça doit avoir lieu, on va vous expliquer que c'est absolument indispensable, que là, c'est la seule solution, qu'il faut mettre un coup d'arrêt porter ce qu'on appelle un coup final. Rappelons qu'au Vietnam, Robert McNamara, régulièrement ministre de la Défense, tous les mois annonçait le coup final porté à travers des opérations de déluge de feu. Il y en avait une dont le nom m'est resté, qui s'appelait Rolling Thunder, c'est-à-dire le tonnerre, le tonnerre en rouleau compresseur, the Rolling Thunder. Donc là, encore une fois, on en revient à des bombardements, des interventions de Marines sur des plages. Tout ça risque d'être, à mon avis, de se terminer en bourbier. C'est aussi là au Vietnam qu'est né ce nom de bourbier. Voilà.
Et espérons que, enfin, peut-être que ça terminera aussi en fiasco d'une certaine façon. C'est pas impossible non plus. Hein. On peut tout à fait imaginer un scénario de grosses difficultés pour l'armée américaine dans le cadre d'un déploiement. Mais ce sont des choses peut-être qu'on analysera la semaine prochaine, Régis, parce qu'on va rester quand même sur sur ce sujet pour avoir un bon suivi. Merci d'avoir été avec nous ce matin et
merci
à la semaine
beaucoup.
Prochaine.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et nous recevons désormais, comme chaque lundi, Raphaël Audouard. Raphaël Audouard, bonjour.
Bonjour.
Alors, je rappelle que vous êtes directeur de la Fondation des Patriotes pour l'Europe. Aujourd'hui, vous nous parlez d'Italie. La semaine dernière, se tenait un référendum sur la justice à l'initiative du gouvernement de Giorgia Meloni. De quoi est-ce qu'il s'agissait ?
Alors, en fait, c'était un référendum constitutionnel sur l'indépendance de la justice. Parmi les principales mesures, on trouvait la séparation des carrières entre juge et procureur, la division du Conseil supérieur de la magistrature, une modification des règles de domination avec notamment du tirage au sort et la création d'une instance disciplinaire spécifique. Le but pour Giorgia Meloni et ses alliés est de dépolitiser la justice qui s'est opposée à très nombreuses reprises ces dernières années aux mesures anti-immigration mises en place par le gouvernement de coalition entre Giorgia Meloni, la Lega de Matteo Salvini et Forza Italia, le parti fondé par Berlusconi. Et donc au-delà de la question de la justice, ce référendum s'est assez rapidement transformé en référendum pour ou contre Meloni à un an et demi à peu près des élections italiennes.
Alors, quels ont été les résultats de ce référendum ?
Donc le non l'a remporté à 53%, donc c'était un résultat assez serré. Pendant l'ensemble de la campagne, les sondages donnaient des résultats serrés entre le oui et le non, sachant que la gauche avait appelé à voter évidemment contre le référendum et que le centre s'était divisé. Une partie du centre, malgré son opposition à Meloni, avait appelé à voter pour. Et quand on regarde un peu les sondages de sortie des urnes, ce qu'on voit, c'est que les électeurs de gauche ont massivement voté contre, les électeurs de droite ont massivement voté pour. Et les électeurs du centre sont divisés, mais c'est les indépendants qui ont fait la différence, puisqu'on a eu à peu près 2/3 des indépendants qui sont allés voter pour le non. Donc cette victoire du non et une défaite pour Giorgia Meloni permettra probablement à la gauche de se relancer un peu après une relative stabilité de l'Italie depuis l'arrivée au pouvoir de Meloni.
Et alors, quelles seront les conséquences de cette défaite du oui ?
En fait, justement, c'est-à-dire que Meloni, depuis son arrivée au pouvoir, avait réussi à avoir un gouvernement assez stable après une série de très, très importante de gouvernements successifs. Donc ça avait été plutôt une réussite pour les droites italiennes. Cette victoire du non affaiblit le gouvernement, renforce l'opposition de gauche, donc le Parti démocrate et le mouvement 5 étoiles. Et en même temps, en plus de cela, on voit un signal à la justice italienne, puisqu'on voit qu'il y a un rapport de force de plus en plus important entre la justice et le pouvoir politique, puisque les juges se permettent de plus en plus de remettre en cause les mesures mises en place par Giorgia Meloni. On se souvient qu'ils avaient fait de même avec le gouvernement de Matteo Salvini avant cela. Et donc ça envoie un signal à la justice aussi qu'ils peuvent continuer à faire cela. Donc en réaction à cette défaite, Giorgia Meloni a annoncé des remaniements et des démissions au sein de son gouvernement, notamment dans le ministère de la Justice, pour essayer de compenser cette défaite. Mais voilà, on voit que c'est un peu le premier échec de Meloni depuis son arrivée au pouvoir.
Oui, et d'autant que je précise que certains analystes on dit que c'est une réforme qu'elle aurait dû faire dès le début de son mandat et que finalement, le fait d'avoir attendu 3 ans et demi lui est assez préjudiciable in fine. Est-ce que Meloni est menacée pour les élections de 2027 ?
Il faut relativiser évidemment sa défaite. C'est-à-dire que le gouvernement de Meloni et ses alliés est toujours très populaire. On a une très grande stabilité du gouvernement. Comme je l'ai dit, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un gouvernement qui tenait aussi longtemps en Italie. En plus de ça, dans les sondages, on voit que Fratelli Italia, le parti de Giorgia Meloni, est très stable, aux alentours de 30%. Et ses alliés de la Lega et de Forza Italia sont aussi assez stables, aux alentours de 7-8%. Mais on voit quand même aussi que la gauche reste puissante. Le Parti démocrate est toujours aux alentours de 20-25%. Le mouvement 5 étoiles, donc le parti populiste qui est aussi en permanence soit à gauche et à droite, mais qui en ce moment est clairement classé à gauche, et lui aussi un peu plus de 10%, aux alentours de 12%, et la gauche radicale italienne aux alentours de 7%. Donc on voit que les deux blocs sont extrêmement stables, d'autant plus qu'on a une scission au sein des droites italiennes, puisque Roberto Vannacci, un ancien leader de la Lega, a créé son propre parti politique. On ne sait pas si jamais il participerait à une coalition des droites en cas de victoire de nouveau des droites. Donc ce qu'on voit, c'est deux blocs extrêmement stables entre la gauche et la droite. On aura probablement une campagne politique très serrée et des résultats en tous les cas très serrés entre Giorgia Meloni et ses opposants de gauche.
Merci Raphaël Audouard, et je précise à nos auditeurs que nous aurons le plaisir demain d'avoir un entretien avec Roberto Vannacci, justement, que j'ai rencontré à Bruxelles la semaine dernière et qui nous a accordé donc un entretien au sujet de son projet politique. Donc peut-être que ça donnera quelques éléments de réponse à Raphaël Audouard. Merci.
Merci à vous.
Ligne droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Bonjour Alexandre.
Bonjour Gilles, comment ça va ?
Bah très bien, après quelques jours en Autriche,
oh bah oui,
à la frontière slovène,
et bah, la vie
magnifique.
Est belle.
Bah la vie est belle, mais on s'aperçoit que les Autrichiens défendent leur patrimoine, hein. Ils ont des vins qui sont de plus en plus exceptionnels. Ils viennent de recevoir, j'étais le seul journaliste français à être invité à la remise des Michelin. Et j'ai même dîné chez le 2 étoiles, le nouveau 2 étoiles en Autriche. Il n'y en a pas beaucoup.
Vous,
hein. Voilà.
vous avez une vie qu'on envie tous.
Je vous en parlerai.
Passons à cette revue de presse. Éric Ciotti a donné un entretien au Figaro dans lequel il parle des premières mesures qu'il met au point pour Nice.
Oui, alors voici l'heure des actions concrètes. Après l'installation des maires, d'emblée, Éric Ciotti a promis de baisser les taux de la taxe foncière de 20% pour effacer la hausse voulue par Christian Estrosi en 2024, puis de baisser les effectifs de la police municipale présente sur le terrain. Ça, c'était, vous savez, ce que voulait faire Estrosi. Alors, Nice redeviendra un bastion de l'ordre républicain, clame-t-il. Et pour lui, la grande transformation de la droite a déjà commencé. Les élections municipales confirment la dynamique et ce qu'il s'est passé à Nice en est l'archétype. À Nice, c'est incarné l'avenir de la droite. Et il ajoute, ceux qui refusent de l'admettre ratent le train de l'histoire. La victoire de notre alliance UDR RN dans 70 villes démontre qu'une dynamique est lancée. Alors à la question, David Lisnard vous invite à vous éloigner du RN et à le rejoindre chez Nouvelle Énergie. Mais que lui répondez-vous ? Et Ciotti de dire sans embâge, je lui dis que c'est à lui de venir à l'UDR, car son isolement ne peut le propulser vers le succès. Je salue néanmoins son courage. Il a enfin quitté le Titanic LR et ses petits matelots, Pécresse, Bertrand ou Copé, qui n'auront décidément évité aucun iceberg durant leur carrière. La droite n'a pas le luxe de la division. 2027 représente certainement la dernière chance pour relever notre pays. Aujourd'hui, dans les sondages, Jordan Bardella et Marine Le Pen atteignent le niveau inédit de près de 40% des voix au premier tour de l'élection présidentielle. Comment continuer à prétendre faire gagner la droite sans alliance avec eux ? Alors d'une certaine manière, Éric Ciotti montre qu'il est la pierre angulaire de ce rassemblement des droites et exhorte les camarades qui, du côté des LR, ont sa préférence, loin des Wauquiez, Larcher ou Copé, connaissant, je cite, des hommes de conviction sincère comme Retailleau ou Bellamy, même s'il leur manque le courage de franchir le pas, que font-ils encore dans cette galère, je les appelle à nous rejoindre. Mais quand on l'interroge sur Sarah Knafo à propos d'une perspective d'union des droites, le nouveau maire de Cannes se lâche. Sarah Knafo n'est qu'une illusion dont le seul but est l'échec. Oh, ça ne va pas très, très, très gentil de sa part. Hein.
Sarah Knafo qui est, pour changer, en une du JDD, interviewée par Geoffroy Lejeune.
Oui, alors du JD News. Hein, attention, c'est le magazine hein, en vente jusqu'à mercredi. Alors, celle qui a été élue dès le premier tour conseillère municipale du 16e arrondissement de Paris, il ne faut pas l'oublier, dit ceci, que personne ne peut lui contester la position du RN à Paris qui a appelé à soutenir Rachida Dati est totalement contradictoire avec ce qu'ils ont fait dans le reste de la France. Ils ont décidé de se maintenir partout au second tour, même quand ils n'avaient aucune chance de gagner et toutes les chances de faire gagner la pire gauche. Aucun sens des responsabilités. Cette attitude vient de livrer Tours et Conflans-Sainte-Honorine, la commune où Samuel Paty a été décapité, à des attelages LFI écologistes ou encore à Chambéry et Mont-de-Marsan aux socialistes, pour ne citer que ces exemples. Et puis Sarah Knafo ajoute plus loin, les électeurs ont compris ce que les états-majors refusent d'admettre, la droite ne peut gagner ensemble, la démocratie c'est la libre concurrence des idées pour la plus grande liberté des électeurs. Voilà, à lire dans le JD News, à lire aussi l'article que lui consacre dans le Parisien Alexandre Sulzer, dans lequel elle s'exclame « Ma vie politique ne fait que commencer ».
Pendant ce temps, hier, dans la Tribune Dimanche, 90 ministres et parlementaires ont lancé un appel pour désigner une candidature unique de la droite et du centre.
Oui, je pense que vous avez dû lire ça, mon cher Alexandre, oui. Une action menée par les macronistes, principalement, puisque quelques personnalités connues comme Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, Vincent Jeanbrun, le ministre de la Ville et du Logement, 65 députés et 16 sénateurs, 44 Renaissance, 25 LR, 8 Horizons, 5 Modem, 5 UDI. Alors, vous l'avez compris, tous ces politiciens craignent un second tour de la prochaine présidentielle de 2027 où la droite dite classique serait éliminée. Et le sondage que publie la Tribune dimanche les inquiète. Dans tous les cas de figure, Jordan Bardella atteint un score important qui va de 34 à 38%. Et le favori qui serait face à lui serait Édouard Philippe qui atteindrait les 28% alors que Jean-Luc Mélenchon ferait seulement 11%. Bien sûr, je ne parle que du premier tour et dans ce fourre-tout des personnalités politiques, rien sur l'immigration et la sécurité, mais un verbiage qui confine au flou. Je cite « À l'autoroute vers le chaos, nous préférons le sursaut », écrit le communiqué. « L'union n'est ni une option ni un slogan, c'est notre devoir, le temps presse ». Alors on pourrait ajouter « L'union après la tempête ». Alors Ludovic Vigogne rappelle les propos de Bruno Retailleau, asséné jeudi dans le Figaro, un candidat macroniste ne pourra pas être élu président de la République. Alors que les Républicains sont très divisés, ajoute le journaliste, leur président a décidé pour le moment de tenter de faire revenir les électeurs partis au RN. Fin de citation. Alors rappelons que dans le dernier sondage, Bruno Retailleau plafonne à 10%, et dans ce même sondage, Bardella est donné gagnant au second tour face à Retailleau et perdant face à Édouard Philippe. Et Marine Le Pen, si elle est candidate, est gagnante à 51% face à Gabriel Attal qui atteindrait 49%. Voilà, à lire dans la Tribune dimanche, en vente jusqu'à demain soir, et je vous encourage à lire aussi le portrait d'Édouard Philippe intitulé « Maintenant ou jamais » dans les colonnes du Point cette semaine.
Et puis François-Xavier Bellamy a donné un entretien filmé à Boulevard Voltaire.
Oui, alors député au Parlement européen, vice-président des Républicains, François-Xavier Bellamy, que vous avez interviewé il y a quelques semaines, mon cher Alexandre, revient sur le vote à une large majorité au Parlement européen du « règlement retour » entre guillemets destiné à lutter contre l'immigration illégale. Alors il détaille un texte qui rompt avec le retour volontaire pour privilégier l'expulsion immédiate, allonge la rétention jusqu'à 24 mois et prévoit des centres hors de l'Union européenne pour contourner le refus de certains pays de reprendre leurs ressortissants. Face à ce tournant, il accuse la gauche de, je cite, « défendre un état de non-droit en s'opposant à toute mesure d'éloignement » et pointe aussi les ambiguïtés des macronistes entre les discours tenus à Paris et les positions à Bruxelles. En filigrane, il décrit une recomposition politique à Bruxelles comparant l'Union européenne à un paquebot long à manœuvrer, mais désormais engagé dans un changement de cap sous l'impulsion des droites qui s'unissent. Voilà, c'est un problème qui est beaucoup plus important qu'on ne le pense.
Merci beaucoup, Gilles.
Je vous dis à demain pour une autre vue de presse.
À demain.
Et maintenant, on passe en zone libre.
Et oui.
Et voilà. Vous voulez ça?
Bah oui, voilà, c'est ça. Alors,
c'est mon nouveau jingle, j'ai pas le temps de le caler.
Vous n'avez pas eu l'inspiration. Maïlys Clauzel. Vous êtes venu pour cette zone libre, qu'est-ce que vous nous avez concocté? Parce que je sens que vous avez préparé un sujet, lequel sera-t-il?
Oui, évidemment, j'ai toujours une panoplie de sujets en réserve. Non, mais je propose qu'on reparle justement de ce tifo qui a été l'objet d'une amende reçue par le LOSC, donc le club de football professionnel lillois. Voilà, donc Alexandre qui se régale avec un clafoutis apporté par Gilles Brochard. Voilà, je précise pour les auditeurs.
Bon, n'importe quoi, je sais
est-ce
pas
ce que vous parlez. Est-ce qu'il est bon, Alexandre, ce clafoutis?
Ce clafoutis est absolument délicieux. On attend toujours Louis Rigaudière.
Moi, je peux en parler aussi, si vous voulez. Je l'ai goûté, il est délicieux, délicieux. Un peu
lourd,
mais sympa.
Est-ce que Louis Rigaudière a une histoire en clafoutis à nous raconter?
Oui, alors Louis Rigaudière qui est en train de prendre place, vous le connaissez, chers auditeurs, vous connaissez ses tirades.
Oui, non.
Vous savez que là, aujourd'hui, il nous a préparé quelque chose. J'ai hâte,
on l'écoute. Mais là, vous me prenez de court, mais j'aime pas quand vous me prenez de court comme ça dès le matin, c'est compliqué. Hein,
non, mais sinon,
je suis pas aussi bon que vous en improvisation.
On peut se réjouir du départ de Léa Lassamé du journal de
c'est
France
vrai,
2.
C'est pour septembre.
Oui, pour septembre alors, et peut-être même avant si son cher et tendre se présentait.
Oui, voilà, apparemment, c'est encore en discussion, c'est pas officialisé et on attend la candidature officielle de Glucksmann, qui n'est pas, alors sauf erreur de ma part, qui n'est pas encore sur la table.
Pas trop
en
dans
tout
les
cas.
Tuyaux.
Alors, voilà. Je me demande si c'est pas déjà déclaré
Je crois pas
candidat,
pour le
pas
moment.
Encore peut-être effectivement, mais en tout cas
pas voilà. De manière officielle en tout cas. Bon, après les candidats, pardon, on verra.
On a une minute pour dire ça, mais on n'en peut plus des types qui se présentent pas en voulant se présenter.
Oui, non, mais les bon, voilà, c'est un classique. Hein.
Et en fait, on a d'un côté les types qui sont candidats, quoi qu'il arrive, tous les 6 mois, comme Xavier Bertrand ou je sais pas qui. Et puis de l'autre, on a les types qui disent « J'y réfléchis ». Eh ben, merci Edouard Philippe, merci Raphaël Glucksmann, merci Jean-Luc Mélenchon. Enfin, le suspense n'existe pas. Quoi. C'est,
Un détail à noter, selon un article de l'Opinion, les dates de présidentielle vont jouer un rôle déterminant parce que, selon la date, la dissolution de l'Assemblée nationale ne sera pas possible. Alors, je me souviens plus exactement de la raison, puisqu'on ne pourra pas dissoudre avant le 14 mai, si je ne me trompe pas, selon Benjamin Morel, qui est constitutionnaliste, voilà, j'ai réussi à le dire. Et donc, ça permettra, merci, et ça permettra donc au nouveau président de la République soit d'être élu avec une majorité possible avec des législatives qui suivent immédiatement l'élection présidentielle ou pas. Parce que voilà, la date va être déterminante en fonction de la dissolution possible ou non.
De la petite poloche.
Exactement. Voilà.
Exactement, magnifique. Merci beaucoup Louis Rigaudier, merci beaucoup Maïlys Clozel aussi pour votre entretien tout à l'heure avec Frédéric Magellan. Et merci surtout, chers auditeurs, d'avoir été avec nous ce matin. C'est la fin du direct sur X et sur YouTube. Quoique,
ça continue sur la bande FM et sur le DAB+, si vous voulez écouter Ligne Droite jusqu'à 10h, avec dans un instant, évidemment, la rediffusion du premier entretien. Mais si vous voulez que Radio Courtoisie dure un peu plus que 10h du matin aujourd'hui, il faut participer à l'effort national. Il faut aller Absolument. Sur soutenir.rc.fr pour faire votre don en ligne, peu importe le montant. En fonction de vos besoins, un petit peu beaucoup, un petit peu énormément, comme vous pouvez, soutenir.rc.fr. Merci d'avance.
Voilà, vous envoyez vos chèques au 61 boulevard Murat aussi, hein, ça fonctionne tout à fait. On prend, j'ai envie de dire. Merci d'avoir été avec nous. Et je rappelle que, maintenant, nous allons parler du chat control, la nouvelle dérive de l'Union européenne, avec Fabrice Leggeri.
Ligne droite. Debout les Français.
Et pour ce premier entretien, j'ai le plaisir de recevoir Fabrice Leggeri. Aujourd'hui, nous allons parler du chat control, cette nouvelle dérive de l'Union européenne. Nous allons parler d'un texte qui a été voté la semaine dernière, voté par le Rassemblement National, mais dans une histoire particulièrement complexe que vous allez nous aider à décrypter. Fabrice Leggeri, je rappelle que vous êtes ancien directeur de l'agence Frontex et député européen du Rassemblement National. J'invite tous les auditeurs qui nous suivraient sur YouTube à poser vos questions durant toute cette matinale. On fera de notre mieux pour y répondre. Première question toute simple, Fabrice Leggeri. En réalité, qu'est-ce qui a été voté la semaine dernière au Parlement européen au sujet du chat control ?
Bonjour et merci pour votre invitation, parce qu'effectivement c'est un sujet assez complexe et en même temps qui pose des questions légitimes sur les libertés publiques. Alors, la semaine dernière au Parlement européen, l'objet du vote était un règlement européen pour simplement prolonger de 2 ans, donc jusqu'en 2028, une autorisation, une dérogation temporaire à ce qu'on appelle la législation européenne e-privacy, c'est-à-dire que ce qui nous était demandé, c'était de prolonger jusqu'en 2028 des dérogations à une législation européenne qui protège la vie privée. Mmh. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une dérogation qui était en vigueur depuis 2021, qui avait déjà fait l'objet d'une prolongation de 2024 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au 3 avril précisément 2026. Et l'objet de cette dérogation était de permettre aux grandes plateformes comme par exemple Google, Meta, Facebook, TikTok, etc., de pouvoir, sur une base de volontariat, donc les plateformes sur la base du volontariat, pouvait déroger à certaines protections de la vie privée pour, en ligne, identifier des contenus pédopornographiques et des contenus qui pouvaient consister, à exposer les enfants, les mineurs à des contenus pédopornographiques. Pourquoi est-ce que cette dérogation était proposée donc jusque finalement en 2028? Eh bien, parce qu'il y a une autre réglementation européenne qui est en cours de négociation mais qui n'a toujours pas abouti et qui est le véritable chat control, comme on dit. C'est le contrôle de toutes les conversations pour, ou en tout cas le contrôle en ligne, je dirais, tel qu'il devrait être de manière définitive, dans sa forme définitive, pour protéger les mineurs en ligne contre les contenus pédopornographiques.
Fabrice Leggeri, pour bien expliquer, en réalité, ce qui existe actuellement, c'est déjà une forme de chat control depuis donc 2021, où... Enfin, qui fait que, eh bien, par l'IA, les plateformes ont la possibilité de scanner les messageries privées par l'intelligence artificielle pour repérer les contenus pornographiques, pédophiles et pédopornographiques. Donc, ce qui signifie que un humain peut accéder à ces conversations pour vérifier. Ça, c'est le premier point. Mais là, ce qui s'est passé récemment, c'est que si je ne m'abuse. Donc, le parti des Républicains en France, donc le PPE, lui, a proposé une sorte de nouvelle version pour prolonger ce texte. Et finalement, le Rassemblement National a voté. Est-ce que vous avez réussi à empêcher... Enfin, est-ce que vous pourriez clarifier un petit peu, effectivement, les votes? Parce qu'en l'occurrence, vous avez un vote du Parti Socialiste et... il me semble des partis patriotes comme donc ECR, les Patriotes pour l'Europe et ESN qui se sont alliés. Et d'un autre côté, vous aviez LR et l'extrême gauche. Comment ça s'est passé un petit peu?
Alors, il y a eu plusieurs étapes dans ce vote. Je dirais peut-être, voilà, il y a eu depuis plusieurs semaines, pour rappeler le contexte, il y avait depuis plusieurs semaines une intensification de campagne consistant à envoyer des spams, des harcèlements sur messagerie à tous les députés du Parlement européen en leur disant de refuser le chat control, en leur disant de refuser la surveillance généralisée. Donc ça fait depuis quelques semaines que c'est en train de bouillir. Et il y avait une date qui était connue, le 3 avril 2026, donc cette semaine-là, il y avait l'assurance que la dérogation temporaire qui existait depuis 2021 et qui donc avait pour objectif de permettre de protéger sur des plateformes comme Facebook, par exemple, de protéger les enfants, mais les plateformes le faisaient d'une manière volontaire.
Ouais.
Et cette possibilité juridique va expirer le 3 avril, parce que la proposition qui était issue, en fait, c'est la Commission européenne qui a toujours, malheureusement, c'est comme ça, dans le système de l'Union européenne, c'est elle qui a l'initiative de proposer une réglementation. Et dans sa proposition initiale, comme il n'y avait toujours pas, si vous voulez, de cadre législatif définitif pour protéger les mineurs contre les contenus pédopornographiques en ligne, et notamment par rapport à l'usage de l'intelligence artificielle, la Commission européenne a proposé d'étendre simplement pour 2 ans et sa proposition consistait juste à repousser la date à avril 2028 pour permettre d'élaborer la législation entre guillemets définitive. Et ce qui s'est produit, c'est que le rapporteur socialiste au Parlement européen sur ce texte, donc une Allemande, Madame Sippel, qui est socialiste, membre des socialistes et démocrates, a cru bon d'aller au-delà de simplement, je dirais, entériner une prolongation de la date jusqu'en 2028. Elle a voulu rajouter des éléments qui réduisent le contrôle et donc la protection des mineurs en ligne. Et elle a fait cela vraisemblablement pour faire plaisir aux Verts et qui, eux, étaient... et sont visiblement contre tout contrôle sur les réseaux sociaux. Et donc, il y a eu, je dirais, en dernière minute, une tentative du Parti populaire européen, donc le groupe auquel appartiennent les LR français, il y a eu une tentative en dernière minute de faire un amendement unique de leur part qui se contentait de reporter de 2 ans la limite, c'est-à-dire pour que nous puissions, un, conserver la protection en ligne telle qu'elle existe aujourd'hui, et deux, nous laisser du temps et ne pas, négocier avec un revolver sur la tempe, et donc nous laisser du temps plutôt que de nous retrouver à partir du 4 avril sans aucune protection. Et il y a eu en fait une confusion pendant le vote en hémicycle, puisque l'un des amendements déposés par les Verts a été validé, a été voté à une voix près dans l'hémicycle. Donc vous imaginez sur 720, bon, il n'y avait pas 720 votants, mais enfin 689 votants, je crois, il y a eu une voix de plus pour un amendement des Verts qui a complètement dénaturé le texte, et de ce fait-là, le Parti populaire européen, donc le groupe ou la partie de l'ELR, avait décidé, ils avaient dans leur liste de vote, ce qu'on appelle un vote conditionné, c'est-à-dire que si l'un des amendements des Verts, des socialistes, etc., était voté, à ce moment-là, ils votaient contre cette dérogation, c'est ce qu'ils ont fait, et donc la dérogation est tombée.
Et alors, Fabrice Leggeri, parce que pour que ce soit clair, à partir de ce moment-là, qu'a voté le Rassemblement national ? Qu'est-ce que ça signifie, ce que vous avez voté ? Et ce qu'on pourrait comprendre de ce que vous dites, c'est que vous avez voté toujours pour le contrôle des conversations par les plateformes privées.
Alors, la position du Rassemblement national sur ce sujet, et je dirais c'est notre position actuellement par rapport au vote de la semaine dernière, mais c'est aussi la manière pour nous d'aborder le sujet du texte en cours de négociation du texte définitif. Nous voulons, premièrement, nous opposer à toute forme de contrôle systématique de toutes les conversations en ligne. Donc nous sommes attachés à la protection de la vie privée, et en particulier nous sommes attachés à garder le chiffrement, donc nous voulons que les conversations cryptées entre des personnes sur ces plateformes et en ligne puissent continuer à être cryptées. Ça, c'est le principe général que nous défendons. Mais nous sommes également, bien sûr, attentifs à protéger les mineurs en ligne contre les pédophiles, la pédopornographie, et donc nous sommes favorables à ce que le législateur, en l'occurrence c'est au niveau européen que ça se passe, nous voulons que le législateur puisse trouver les moyens proportionnés de permettre à des enquêtes judiciaires protéger les mineurs en ligne et surtout de traquer et d'arrêter, de remonter aux pédophiles qui agirait en ligne.
Mais alors, concrètement, Fabrice Leggeri, là, ce qu'on a l'impression d'entendre, c'est une forme d'en même temps. C'est-à-dire, vous dites, d'un côté, on veut respecter le côté privé des conversations, de l'autre côté, on veut que les plateformes, que la justice, puissent avoir accès aux conversations privées.
En réalité, il y a aujourd'hui une hystérisation totale des positions au Parlement européen, parce que d'un côté, vous avez ceux qui refusent toute forme de possibilité, on va dire, d'intrusion de la justice et de la police en ligne pour traquer les pédophiles. Et vous avez ceux, malheureusement, qui sont favorables à un contrôle total et préventif, c'est-à-dire ceux qui veulent que toutes les conversations en ligne puissent être surveillées, ce qui ouvrirait également la porte à une censure politique, et donc ça, nous voulons l'éviter. En réalité, je pense qu'il y a aussi une espèce de refus, de jusqu'au boutisme de beaucoup d'acteurs, et peut-être aussi des plateformes qui ne veulent pas se prêter à, si vous voulez, une coopération avec les enquêtes policières et judiciaires dans nos États. Je prendrai l'exemple d'une maison. Un domicile privé est sacré. Donc la police ne va pas entrer pour n'importe quoi et parce que simplement on a vu qu'il y avait de la lumière, on se demande ce qui peut bien se passer et qu'à ce moment-là, la police entrerait à toute heure du jour et de la nuit sous n'importe quel motif. Donc ça, c'est un principe qui existe et qui est régi par notre droit et par la protection de nos libertés, je dirais, dans le monde réel. Eh bien, ce que nous voulons, c'est qu'il puisse y avoir la même chose, c'est que s'il y a besoin de faire une enquête, il y a un mandat d'un juge et que ça se passe dans les formes requises.
Pardon, que je comprenne bien, et ce sera ma dernière question, Fabrice Leggeri, parce que je crois qu'il nous reste que 2 minutes. Est-ce que ça signifie que, pour vous, les plateformes et la justice peuvent avoir droit, préventivement à un scan des conversations privées pour justement vérifier s'il y a des contenus pédopornographiques, ou alors est-ce que ça signifie que s'il existe déjà une enquête, à ce moment-là, il y aura droit à une forme de perquisition numérique?
Nous sommes contre le scannage complet et systématique de toutes les conversations.
D'accord.
Ce que nous voulons, c'est que quand il y a une suspicion avérée, lorsqu'il y a, si vous voulez, un faisceau d'indices, lorsqu'il y a des éléments, qu'il y a une enquête déjà existante, eh bien, à ce moment-là, nous voulons que la justice puisse enquêter comme elle le ferait dans le monde réel. Et
d'accord.
Donc, c'est effectivement très difficile parce qu'il y a une hystérisation complète des positions au Parlement européen, au point que tout le monde y perd son latin, si vous me permettez cette expression. Et puis, il y a les plateformes qui, d'une certaine manière, nous disent que techniquement, ce n'est pas possible. Et donc, on essaie de nous laisser face à ce dilemme entre, d'une part, scanner totalement toutes les conversations et donc porter atteinte à la vie privée et donc potentiellement établir une censure totale, une surveillance généralisée, ou bien laisser les mineurs en ligne et d'ailleurs toute forme de criminalité prospérer en ligne. Et donc pour nous, le législateur doit évidemment protéger les citoyens, mais il doit aussi, et c'est la position du Rassemblement national, protéger les libertés publiques, la liberté d'expression, et bien entendu, protéger le secret des correspondances tant qu'il n'y a pas de suspicion qu'un crime ou délit est commis.
Merci beaucoup Fabrice Leggeri, c'est un sujet qui est quand même particulièrement complexe, notamment parce que c'est du droit européen assez technique, hein, donc on excuse nos auditeurs quand même pour ce côté technique, mais je pense que c'est important aussi de savoir rentrer là-dedans. Merci donc d'avoir clarifié la position du Rassemblement National et de votre groupe à ce sujet, et puis on vous dit sans doute à bientôt pour parler de ce sujet ou d'autres. Merci Fabrice Leggeri.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Alexandre de Galzin.
Merci, chers auditeurs, d'avoir suivi Ligne Droite ce matin. Mon micro était fermé.
J'avais juste allumé le mien, je voulais parler seul.
Voilà, on censure. Non mais merci d'avoir été avec nous ce matin. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours, d'avoir vos commentaires, d'avoir vos appels, de savoir un petit peu ce que vous pensez de cette matinale. On voit que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Je rappelle que nous sommes quand même une des radios les plus écoutées en Ile-de-France, hein, un petit peu derrière Europe 1. Mais si vous voulez qu'on les dépasse, qu'on dépasse tout le monde en fait, comment on fait?
Bah, c'est une question de moyens en fait, donc... Voilà, c'est le nerf de la guerre comme toujours. Il nous faut plus d'équipes, plus de moyens pour aller plus loin dans les reportages, dans la couverture d'événements qui ne seraient pas relayés ailleurs. Alors, et puis surtout, il faut nous aider à préserver cette fameuse indépendance dont on parle tant, mais qui est si rare ailleurs. Nous ne dépendons de personne, d'aucun annonceur, de rien du tout, ni de publicité, ni de subvention.
Et c'est exactement pour ça qu'on peut dire exactement tout ce qu'on veut ici dans le fond, quoi. C'est justement pour ça qu'on a toute cette liberté.
Mais voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que vous n'entendez des choses ici, que vous entendez des choses ici que vous n'entendez pas ailleurs.
Absolument.
Donc, soutenir.rc.fr pour faire votre don en ligne, soutenir.rc.fr ou vos chèques au 61 boulevard Murat, 75016 Paris, bien entendu, libellé à l'ordre de Radio Courtoisie et non d'Alexandre.
Et sur Radio Courtoisie, que se passe-t-il aujourd'hui?
Eh bien, dans quelques instants, le monde de la philosophie d'Élie de Thoras pour la philosophie de Jacques Maritain. À midi, le libre journal de la transmission de Valérie Daubigny, se libérer du piège de la laïcité et qui sont les prolophobes. À 16h30, en toute bonne foi, de France Andrieux, chronique de la vie d'un prêtre. 17h, culture et politique de Richard Haddad et Pierre-Henri pour ce que le monde doit à l'église. 17h30, le Restons Courtois d'aujourd'hui avec Pierre-Alexandre Bouclet qui reçoit pour un grand rendez-vous Philippe Vardon. Et puis le rendez-vous de la réinformation. 19h30, le libre journal du lundi soir de Thierry Lenz. Et à 21h30, la soirée musicale de Virginie, les architectes invisibles du cinéma au programme. Voilà, monsieur.
Voilà, et puis moi je ne vous dis pas à lundi, mais à demain, parce que demain c'est mardi.
Oui.
Et puis surtout demain j'anime la matinale également. Donc je vous donne tous rendez-vous, chers auditeurs. Hâte de vous retrouver.
À demain, 7h.